Bonjour. Alors, comme je vous l'ai rappelé la dernière fois, le Wakando Eshu compte un peu plus de 800 poèmes. Donc, c'est tout à fait impossible d'en donner un aperçu, même synthétique, sans entrer dans les détails de certains enchaînements thématiques qui font l'originalité du recueil. Donc, on ne peut pas faire un survol des 800 poèmes, mais la meilleure façon de donner une idée, c'est donc de choisir quelques séries. J'appelle séries, donc il y a les rubriques d'un côté, et puis ensuite les séries qui sont les successions de poèmes dans l'ordre que nous avons déjà vu et que nous allons revoir. Alors, nous allons bien sûr sacrifier le plus grand nombre, et je prendrai quelques séries thématiques qui me semblent intéressantes pour montrer ce que je voudrais que l'on retienne de la structure de ce recueil. Alors, nous sommes forcés de quitter le printemps après en avoir parcouru la première série qui est consacrée au début du printemps, Rishun, et laisser de côté les 17 autres séries de cette rubrique, parmi lesquelles on compte les différentes phases de la saison, le premier printemps, le printemps tardif, le milieu du printemps, etc. On compte des animaux, la flore comme le rossignol, la faune comme le rossignol, la fauvette, la brume, la pluie, les fleurs de prunier, le saule, la floraison des cerisiers, hana, la chute des fleurs, l'azalée, la glycine, donc tsuji, fuji, et la rose du Japon, yamabuki. Chacun peut en voir l'importance comme liste de référence des thèmes poétiques les plus communs dans les deux langues. Et la simple lecture des titres des séries, il y en a 59 pour le premier livre et 48 pour le second, nous donne une très instructive énumération des motifs poétiques que l'on retrouve dans les anthologies japonaises ou les recueils individuels. Mais nous sommes obligés d'avancer et nous ne retiendrons que les séries qui nous paraissent significatives pour notre propos, celles qui révèlent comment le passage d'une langue à l'autre du chinois au japonais, s'accompagne d'une amplification des motifs latents dans la langue chinoise, d'un transfert langagier significatif ou d'un net glissement vers la dimension religieuse, qui illustre ce que nous avons déjà mis en lumière dans les années précédentes, l'élévation de la langue japonaise au niveau du chinois, grâce à un approfondissement de son imprégnation bouddhique. Vous allez voir pourquoi je le dis. Après avoir vu une série du printemps, nous allons voir cette semaine une série significative de l'été, rubrique qui elle-même ne comporte que 11 ou 12 séries selon les éditions. Mais nous verrons tout d'abord la première, qui ne comporte que 3 poèmes, et nous donne un exemple typique d'enchaînement selon les 3 modes d'expression. Cela nous permettra de prendre un premier contact avec cette rubrique, la rubrique de l'été, avant de nous concentrer sur une série qui en est à l'intérieur. Avant cela, je voudrais vous signaler ce que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'est qu'il existe une traduction anglaise du Wakando Eshu, qui date de 1997, l'œuvre conjointe de Thomas Reimer et Jonathan Chaves, donc Japanese and Chinese Poems to Sing, traduction que je n'ai pas pu utiliser, que j'ai commandée, mais c'est, de toute façon, vous savez que nous travaillons essentiellement sur les commentateurs japonais anciens et les éditeurs modernes. Alors, cette première rubrique est intitulée Kolomo Gae ou Kolomo Kae selon les lectures, ou bien Koi en lecture phonétique, sinon japonaise. Donc, le changement d'habit, le changement de vêtements, pratique ritualisée où l'on prend les habits les plus légers de la saison d'été, qui désigne pour l'été, donc le premier jour du quatrième mois lunaire. La partie chinoise et sino-japonaise donc, s'ouvre sur un district de Pochuyi, comme c'est normal, n'est-ce pas ? Comme de juste. Et je vous donne ici le texte en chinois classique, la lecture en kun, n'est-ce pas, en japonais. J'essaye de faire un mélange de plusieurs lectures pour regarder celles qui nous intéressent, non pas pour tirer à moi le sens d'une façon ou d'une autre, mais c'est lorsque les lectures de certains éditeurs ou de certaines traditions sont trop particulières, je préfère donner une lecture plus légère. Je vous la lis telle quelle, lentement pour que vous puissiez suivre. Donc, adossée au mur, la lampe garde encore la flamme de la nuit écoulée. Le coffre ouvert, l'habit porte encore le parfum de l'an passé. Donc, adossé au mur, la lampe garde encore la flamme de la nuit écoulée. Le coffre ouvert, l'habit porte encore le parfum de l'an passé. Deux vers tirés d'un poème figurant au livre 67 du Hokemonju, n'est-ce pas, qui comprend, ce poème comprend 8 vers et constitue un heptasyllabe d'ancienne manière, Shichigon Koshi. Nous n'avons pas le temps de voir le poème complet, mais nous voyons que les vers extraits ici, qui sont les 3e et 4e, mettent en contraste la brièveté de la nuit du début d'été, si courte que la lampe n'a pas eu le temps de brûler complètement, donc la lampe qui normalement aurait dû s'éteindre avant l'aube dépasse l'aube, et elle le met en contraste avec l'hiver, avec la longueur de l'année, l'hiver tout spécialement, mais les vêtements d'été enfin ressortis ravivent les souvenirs de l'an passé. Si les nuits sont courtes, les jours se font plus longs. Et dans les vers suivants du poème, que je n'ai pas mis là, ici, dans les vers suivants du poème, Po Chuyi se propose avec son ami Mang De, Bo Toku Li. Il y a une petite erreur de. C'est Bo Toku, le Toku de Eru, n'est-ce pas, obtenir. Donc qui est le. Qui est un poète contemporain de Po Chuyi, qui s'appelle donc Liu Ushaku en japonais, et son nom chinois c'est Liu Yu Shi, n'est-ce pas, pas Ti ici, c'est Shi, X-I en pinyin. Donc il se propose avec son ami Mang De, qui est poète comme lui, et comme lui aspire à une vie en retrait du monde des affaires politiques, de remédier à cela avec une cruche de vin qui réchauffera l'atmosphère dans le nouvel ermitage qu'il occupe. Réchauffer, le mot réchauffer est dans le dernier vers. Le distique sino-japonais qui prolonge celui de Po Chuyi rappelle le premier par quelques subtiles résonances verbales, dont nous ne verrons que les principales. L'auteur en est Sugawara no Michizane, donc 845-903, dont nous ne reparlerons pas ici, sinon pour rappeler qu'il fut certainement le plus grand poète et prosateur du IXe siècle en style chinois. Le poème est contenu dans le recueil de ses poèmes et textes en prose, le Kanke Bunso, encore une fois un bel exemple de lecture mixte, n'est-ce pas, puisque il faudrait dire soit Kanka Bunso ou Kanke Monzo, mais on mélange les deux lectures, c'est une lecture traditionnelle, qu'il composa lui-même pour le présenter à l'empereur Daigo en 900, un an avant son envoi en exil à Dazaifu dans le Kyushu, et 3 ans avant sa mort dans le chagrin de cet exil. Le poème d'où provient le distique est écrit à l'occasion de sa prise de fonction comme gouverneur de la province de Sanuki, dans l'île de Shikoku, Sanshu, ici, dans le titre qui est donné en bas. Voyons-en d'abord le texte. Encore une fois, je vous lis la traduction des vers chinois et de leur transcription en japonais. Alors, l'habit de soie est cru. J'attends que vienne mon jeune parent pour le lui faire porter. Alors on peut lire soit Kaji en machite Kisen ou Kaji en machite Kintoros. Je vais vous expliquer pourquoi. J'attends que vienne mon jeune parent ou mon épouse pour la lui faire porter. Le cru de l'an passé, nous le savourerons avec les anciens du village. On pourrait ici préférer, en prenant le verbe kiru, chaksu, c'est pas le porter un vêtement, au factitif kiseru, suivant en cela les glosses de Eisai, le commentateur des alentours de 1200, comprendre que Michizane attend la venue d'un membre plus jeune de sa parentèle, Kajin, étant à prendre dans ce sens ici, Kajin faisant contraste avec Yudo, n'est-ce pas, les anciens du village dans le vers suivant, afin de lui offrir le vêtement. L'autre interprétation qui reçoit l'unanimité des modernes, mais qui est aussi bien attestée chez les anciens, étant que le poète attend de sa famille, Kajin, c'est-à-dire de sa femme, l'envoi de vêtements légers d'été, ce qui impliquerait une certaine pénurie peu compatible avec ce que l'on peut penser du train de vie d'un gouverneur de province. mais aussi que sa femme ne l'a pas suivi à son poste. Enfin, il y a toutes sortes d'interprétations possibles, je ne reviendrai pas là-dessus. Le reste du poème, qui est aussi de 8 vers, résonne par quelques termes avec celui de Po Chuyi. En particulier, le caractère shuku, yadoru, n'est-ce pas, que nous avons vu tout à l'heure, et qui se trouve dans le... qui est l'avant-dernier terme du premier vers ici dans le distique de Po Chuyi, se retrouve dans le poème de Michizane. Nous l'avons vu tout à l'heure appliqué à la flamme, et qui était moins éphémère que la nuit pour le poète chinois, et qui était opposé à Kakunen Toshio Hedatsu, n'est-ce pas, séparé par une année. Il est cette fois repris justement pour s'appliquer à l'année. C'est le vin mis à fermenter, oui, que vous avez ici au début du second vers, n'est-ce pas ? Le vin shukujo, le vin mis à fermenter l'an passé. Donc une continuité de vocabulaire. De même, le thème du vin est repris dans les deux poèmes. Alors que dans son dernier vers, Po Chuyi se promet une journée qui chauffera, au sens littéral, au caractère chaud du poète chinois, répond le composé Reishin, que nous avons dans le reste du poème, les Shin, c'est-à-dire Tsumetaki Kokoro, n'est-ce pas, d'un cœur froid du poète japonais, donc, dont l'œuvre se présente paradoxalement comme un adieu à la poésie. Le poème dit Yoshi Sale Eika, adieu fleurs et rossignols, c'est-à-dire les thèmes poétiques, pour exprimer son désir de se consacrer à l'administration de sa province, agriculture et sericiculture, n'est-ce pas, Kaiko, l'élevage du verre à soie. Le contraste est souligné encore par la différence entre le dernier vers de Po Chuyi, qui se délecte par avance de la journée qui l'attend, et du premier vers de Michizane dans son poème, qui se désole de n'avoir personne à qui parler. Nous pouvons mesurer ici, à travers ce dialogue dissonant des deux poèmes, dont pourtant la connexion est assurée par les rapprochements lexicaux et syntagmatiques, même lorsqu'ils sont contradictoires, chaud, froid, absence ou présence d'interlocuteurs, rejet de la poésie, combien la partie manquante des poèmes est aussi à prendre en compte dans le choix des citations. Mais nous ne pouvons que remarquer que ce n'est pas ainsi que procèdent les commentateurs anciens, suivis en cela par les modernes, qui se contentent de gloser les passages cités explicitement. Nous pouvons donc mesurer à partir de cela l'immensité du travail qui reste à faire si l'on décidait de poursuivre l'enquête en allant au-delà de la partie émergée de l'iceberg que représentent ces citations fragmentaires. Il y a tout un travail d'exégèse à faire qui n'est pas encore fait. Après la citation chinoise et la citation sino-japonaise, voici le poème japonais. Et nous ne pouvons que remarquer cette fois comment ces poèmes japonais, les waka donc, contrastent avec les poèmes fragmentaires qui les précèdent, en ce qu'ils sont complets à chaque fois. Nous voyons aussi que la séquence des trois poèmes est minimale ici dans ce cas, puisque nous n'avons qu'un distique chinois, un distique sino-japonais et un poème japonais. C'est en quelque sorte un prototype de séquence du Wakan no Ishu. Le poème japonais est de Minamoto no Shigeyuki, qui fut actif dans la toute dernière partie du Xe siècle. Il fut mis au nombre des 36 immortels de la poésie, Sanju Rokkasen, et à l'un de ses poèmes dans le Hyakuni Ishu. On possède de lui un recueil personnel dans lequel on trouve le plus ancien poème de centurie poétique au Japon, c'est-à-dire une composition de 100 poèmes, suivant l'ordre classique des poèmes, c'est-à-dire les quatre saisons, etc., etc. Je vous rappelle que la première centurie poétique est l'œuvre de Jien, que nous allons revoir, ça ne vous étonne pas tout à l'heure. Le poème cité ici est contenu dans les glanures poétiques, donc le Shui Wakashu, et il provient justement de cette centurie composée sur sa demande à l'intention de l'empereur retiré Reizei. Il s'inscrit parfaitement dans le thème de la série, le changement d'habit, Konomokae, et se présente ainsi. Alors je vous donne ici le texte, la transcription phonétique, donc tout est. Je me permets simplement de vous présenter ma traduction. De la splendeur des fleurs, encore tout imprégné. Quel dommage de devoir, mon habit en ce jour, le changer. Ça fait un peu des vers de mirliton, mais simplement pour vous donner une idée du contenu. Nous n'insisterons pas sur le changement de ton apporté par le poème japonais par comparaison avec les deux précédents. Alors que le poème de Po Chuyi évoque la joie d'une journée de poésie arrosée de vin avec un ami cher, Michizane retrouve un ton plus sérieux, causé par le sentiment du devoir officiel, adouci encore cependant par la perspective d'une réunion conviviale avec les anciens du village avant de se replonger dans les affaires. Dans le poème japonais, c'est la mélancolie pure qui règne, née de l'attachement aux choses. Double attachement, le vêtement du printemps, comment y renoncer, quand il porte encore ce qui est le plus cher au cœur du poète, c'est-à-dire l'odeur des fleurs de cerisier qui s'est imprégnée dans les manches ou dans les plis de son habit. Bien sûr, nous avons encore, comme nous l'avons vu au cours précédent, le poème japonais comme point d'orgue du sentiment de l'éphémère et de l'impermanent, déjà suggéré dans ce que nous avons vu la dernière fois. Et ce poème japonais comme point d'orgue, nous allons encore le retrouver tout à l'heure, et on a vraiment l'impression que c'est une constante dans ce recueil. Me ferais-je encore accuser de boudomanie, je ne sais pas si le terme existe, mais je me permets de l'employer ici, en me hasardant à souligner dans les deux citations chinoises et sino-japonaises, ressouligner la présence du terme shuku, c'est pas que nous avons lu yadoru, qui signifie le plus souvent faire étape, passer la nuit, ou s'arrêter pour une certaine période de temps, dont nous avons vu ici deux variantes, donc passer une nuit ou une année. Mais dans les textes bouddhiques, ce caractère prend un sens plus particulier et se réfère à ce qui perdure par-delà les renaissances, en bien ou en mal. Pris en ce sens, il résonne fortement avec le verbe somu, se teindre, que nous avons ici, n'est-ce pas ? Someshitamoto. Le verbe se teindre, s'imprégner du waka japonais, terme qui désigne l'imprégnation des passions sur la pensée, imprégnation constitutive du mauvais bagage d'actes qui suivra la personne au fil des générations. Pris dans cette acception, le mot que nous avons traduit par splendeur, ido, hana no ido ni someshi, ido ni someshi tamoto, et oshikedeba, donc le mot ido se colore alors lui aussi d'une nuance différente. Il s'agit du visible, de l'objet des sens, et donc de la sensualité. Et ce segment de vers peut dire infecté par la sensualité du monde. Et nous pouvons en ce cas envisager comment cela déteint à nouveau sur la fin du poème. Le poète, imprégné de la sensualité moderne, ne peut changer de vêtements. Kodomo kae uki. Dans les poèmes bouddhiques, kodomo est une allusion aux vêtements monastiques. Le poète ne peut donc renoncer au monde et est menacé de rester encore longtemps, shiku yadoru, dans le cycle des morts et des renaissances. Ce genre d'interprétation serait tout à fait justifié dans une série de poèmes à thème bouddhique, dans des shakkyoka. Nous n'aurions pas à le démontrer plus avant. Il est fort douteux qu'il ait été à l'esprit de Kinto lorsqu'il composa son recueil, mais cela n'a rien d'impossible. Il est en revanche fort probable qu'un lecteur tel que Jien l'ait eu à l'esprit. Que l'on n'en trouve pas trace chez les commentateurs anciens n'est sans doute pas un argument probant, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart d'entre eux s'attachent avant tout à élucider les circonstances historiques de la composition des poèmes, ainsi que le vocabulaire, ce qui ne nous concerne qu'indirectement dans cette enquête. Tandis qu'ils sont presque tous muets sur les poèmes japonais, pratiquement jamais commentés, et ils concentrent leur acuité philologique sur le texte en chinois. Nous voyons cependant, si nous pouvons suspendre un instant notre incrédulité et accorder quelques crédits à cette lecture bouddhique, qu'elle est en quelque sorte accentuée et conclue par le poème japonais. Donc toute la série Yadoru, Shuku, se termine par le Kodomo Kae Uki, Ushi. Nous allons à présent examiner une série plus longue, moins ambiguë dans sa portée religieuse, qui devrait mettre en lumière la pertinence d'une telle lecture. Passons sur les différentes séries de l'été, les chronologiques, celles qui concernent la faune de l'été, les coucous, les cigales, et la flore, comme les orangers sauvages, et la dernière série qui concerne les objets de l'été, évidemment l'éventail. Comme on l'aura pressenti, nous allons nous arrêter sur les sept poèmes qui constituent la série sur les lotus, hachisu, les poèmes 175 à 181, et nous allons voir comment la progression de ces poèmes nous mène de façon beaucoup plus évidente à la conclusion que nous avons seulement suggérée pour la série précédente. Excusez-moi, ça c'est le vocabulaire de tout à l'heure. La première des trois citations chinoises est un distique de Po Chui, comme de bien entendu, et nous le voyons en premier. Voilà, vous avez encore ici quelques différences de prononciation, quelques variantes de prononciation. Je vous donne la lecture la plus synthétique. Les feuilles des lotus qui se fanent au vent d'automne, sont encore vertes. J'accentue un peu, n'est-ce pas ? Oui, Royo, Oitaloha. Donc les feuilles des lotus qui se fanent au vent d'automne sont encore vertes. Les fleurs qui subsistent des renouées aquatiques, Tadé, n'est-ce pas, la renouée, les fleurs qui subsistent des renouées aquatiques, dans leur désolation, Sekibakutoshite, sont encore empourprées. Donc, les feuilles des lotus qui se fanent au vent d'automne sont encore vertes. Les fleurs qui subsistent des renouées aquatiques, dans leur désolation, sont encore empourprées. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a un net décalage entre ce fragment de poème et la rubrique où l'a inséré le compilateur. Ce décalage est plus encore évident si l'on regarde le titre chinois de ce poème de six vers, le titre chinois que je vous donne, qui est après, n'est-ce pas ? L'automne à l'ouest du chef-lieu, offert à Ma Zhao. On peut s'étonner de voir un poème que son auteur chinois situe, on ne peut plus explicitement, en l'automne, classé ici dans les poèmes d'été. La réponse est à chercher au Japon. Le lotus, qui est appelé ici re, n'est-ce pas, ka, dans le poème, fuka, le lotus, les lotus bercés par le vent, et ce ka est synonyme de ren, ou lien en chinois, et le lotus donc, est une plante de la fin d'été. Je vous dis aussi, cette lecture japonaise explicative de lotus, hachisu, est en réalité un nom composé tout à fait évident, n'est-ce pas ? C'est la forme de base, et le lotus hasu, est la forme hasu est une forme abrégée, mais vous voyez que c'est hachi no su, littéralement nid d'abeille, n'est-ce pas ? Et c'est à cause de la forme de la. Lorsque l'on coupe une racine de lotus, une racine que nous allons voir tout à l'heure, elle présente des petits espaces creux qui font penser à des alvéoles de ruches. Donc le lotus, nous assistons ici, donc in vivo pour ainsi dire, à ce mouvement même de translation, au sens étymologique de transfert, qui s'opère entre cultures chinoises et japonaises dans le cadre même de la transposition d'un texte chinois en contradiction évidente avec son intitulé. On ne peut qu'y voir le premier pas dans la mise en œuvre de l'intention de l'auteur, du compilateur, l'intention qui se révélera à la fin. Remarquons seulement, avant d'aller plus loin, que le terme descriptif du second vers, lu Sekibaku, ce que j'ai traduit par désolation ou tranquillité, ça veut dire la tranquillité, la désolation, l'isolement, qui est une lecture kan, une lecture donc poétique de la poésie classique, se lit aussi Jakumaku en Go-on. Et évidemment, ça vous évoque un tout autre univers, un univers bouddhique, dans la lecture Jakumaku, sur laquelle je reviendrai à l'extrême fin du cours, mais je vous le dis maintenant, ça évoque à la fois la tranquillité, l'isolement de l'ascète, du méditant, du religieux qui s'est éloigné, et c'est aussi une épithète du nirvana, lorsque c'est lu en lecture Go-on. Donc c'est déjà un indice intéressant. Ajoutons encore, bien que cela n'ait pas d'influence immédiate sur notre compréhension de la série, que le poème est ici encore l'évocation d'une mélancolie automnale partagée avec son destinataire, et où Po Juyi fait état de son peu d'enthousiasme pour les tournées d'inspection que lui imposent ses fonctions. Un peu le contraire de ce que Michizane se promettait tout à l'heure. Encore que le dernier vers que je vous donne ici, le dernier vers, « Et je me désole que nos deux cœurs communient dans la mélancolie de l'automne » puissent accentuer virtuellement, pour qui connaît le poème, c'est-à-dire le non-dit du poème, ce contraste, le non-dit dans la compilation, ce contraste entre la situation transposée estivale du poème et son sens de fond, qui n'est pas complètement délaissé. La seconde citation est encore de Po Juyi, mais ne provient pas du même poème. Il est intitulé, ce poème, « Le lotus au pied des marches ». Alors, les marches « kaika », n'est-ce pas ? « Kaika no hachisu » peut avoir plusieurs sens. Nous allons faire état tout à l'heure. Je vous en donne, voilà, comme tout à l'heure, n'est-ce pas ? Je vous le lis lentement. « Ces feuilles se déploient, les feuilles du lotus, bien sûr, et leur reflet se transpose dans la clarté lunaire, sur les dalles de l'escalier qui mènent au bassin. Ces fleurs s'épanouissent et leur parfum se disperse au vent qui pénètre le store. Les gloses de Eisai, que nous avons déjà mentionnées, par exemple, suggèrent plusieurs explications de la première image. la plus vraisemblable étant que le mouvement des feuilles sur l'eau se communique, c'est-à-dire se prolonge dans le reflet sur les dalles de l'eau qui va jusqu'aux dalles. L'escalier peut être l'escalier qui mène, donc qui mène vers le bassin à partir d'un pavillon où le poète se trouvait. C'est un escalier de pierre, soit nous sommes en Chine et pas au Japon. Il faudrait aussi avoir à l'esprit la seconde partie du poème qui nous donne encore une profonde indication. Je ne voulais pas donner ici, je ne vais pas le lire, je vous donne simplement la traduction française. « Certes, mieux eût valu qu'il pousse au lac du paradis, c'est lotus. Ten-chi, n'est-ce pas ? Ten-chi, ten, le ciel, chi, l'étang. L'étang du paradis fait un peu trop modeste, alors j'ai traduit par lac. Mais, certes, mieux eût valu qu'il pousse au lac du paradis, mais cela est bien préférable encore à croître dans la plaine humide. L'étang céleste dont il est question est une idée bien antérieure au bouddhisme en Chine, qui apparaît chez Chuangzi. L'eau des plaines, n'est-ce pas, qui est Yasui, no-nomise, l'eau des plaines désigne le bas-monde des hommes. Le poème de Po Chuyi, il faut le savoir, a été rédigé lors de l'exil dont il a été question au dernier cours. Et la pièce a donc un sens politique assez facilement discernable. L'étang du paradis, le lac du paradis, désigne alors la capitale et la présence de l'empereur, Chou'an, Chang'an, où le poète aspire à retourner. En même temps, il ne se plaint que modérément de son sort, il aurait pu être pire. Nous remarquerons avec quelle facilité les deux dimensions peuvent être transposables au concept bouddhique. En cette époque de Heian, où les croyances zamidistes prenaient une ampleur extraordinaire, en prenant place aux côtés des deux grandes traditions du Tendai et de l'ésotérisme, Mikkyo, l'image de l'étang céleste ne peut qu'évoquer immédiatement l'étang des lotus, Renchi, n'est-ce pas, ou Hasuike, Hachisu no Ike, du paradis du Bouddha Amida, dont nous voyons ici une belle illustration qu'a trouvée Julien Faury, et je l'en remercie. Donc ce lac couvert de lotus sur lesquels viennent renaître les fidèles qui auront invoqué son nom. Et nous n'oublierons pas d'ailleurs que l'une des rubriques du Wakan Roeshu, sur laquelle bien sûr nous reviendrons, s'intitule Butsumyo, les noms du Bouddha, l'invocation des noms du Bouddha. Ceux qui se souviennent des cours des deux premières années auront encore à l'esprit que l'image de la plaine, Nohara, dans la poésie bouddhique, opposée à la montagne où se prêche le Sutra du Lotus, est une métaphore de notre monde, du niveau de l'existence non encore éveillée, errant soit dans l'erreur, soit dans les premiers degrés de la doctrine bouddhique, qui est alors appelée le petit véhicule. L'image de la plaine n'est certes pas aussi répandue dans les esprits en ses implications bouddhiques que l'étang du lotus, mais les deux termes se retrouvant dans un même poème, même fortuitement, ne peuvent qu'inspirer ce rapprochement à un poète de Heian. Et quand bien même l'étang au lotus, Renchi, n'est pas spécifique de la terre pure d'Amida, mais se retrouve dans toute terre de Bouddha, ainsi que le rappellent Jérôme Ducor et Helen Loveday dans leur beau travail sur le Sutra des contemplations du Bouddha vie infinie, il est difficile de ne pas y penser au Japon de cette époque. Le troisième distique chinois est l'œuvre d'un contemporain de Po Chuyi, Shuhun, donc Kyokon en japonais, dont les dates seraient 791, il y a une hésitation sur la date de naissance, 791-854, donc quasiment bien contemporain. Je rappelle que Po Chuyi est mort en 848. Et donc il reste un recueil poétique en deux livres. Si le titre peut être abrégé selon les éditions, en omettant les deux premiers caractères qui indiquent qu'il s'agit d'un poème de fin d'automne encore, la plupart des éditions ou ses commentaires précisent bien que le thème en est, comme ici, l'étang des lotus au pavillon de l'ouest du relais de Yunyang. Excusez-moi, j'ai une petite erreur. C'est-à-dire que bien que le mot même de lotus n'apparaisse pas dans les vers cités, nous savons en toute certitude qu'ils en sont le thème. D'autant plus que le même composé Renchi est exprimé dans le premier vers du poème omis dans la citation que je vous donne ici. Dans la fumée s'ouvre l'éventail d'émeraude à l'aube du vent frais. Dans l'eau flotte le vêtement pourpre, automne de blanche rosée. Dans la fumée s'ouvre l'éventail d'émeraude à l'aube du vent frais. Dans l'eau flotte le vêtement pourpre, automne de blanche rosée. Bien que l'on comprenne généralement le mot keburi comme la vapeur d'eau qui monte de l'étang à première vue, la mention au premier vers du poème qui n'apparaît pas ici d'une chandelle, vous le voyez ici, c'est pas Kokoro Niomu, je me souviens d'une promenade que je faisais à la chandelle, à la lumière d'une chandelle, d'un lumignon à l'étang de Lotus. Donc, cette mention d'une chandelle, d'une bougie, d'une torche, nous incite à penser qu'il s'agit de la fumée du lumignon dont il est question. Le second vers, non cité non plus, indiquant que les lotus, dont ne subsistent que les feuilles, les fleurs étant tombées, lui font penser à des barquettes. Nous allons voir peut-être une autre comparaison du lotus avec un autre instrument. De cette première comparaison naissent les deux autres qui font l'objet de la citation. L'éventail d'émeraude et la feuille verte du lotus, le vêtement pourpre, ce sont les fleurs du lotus dispersées sur l'eau après leur chute. N'insistons pas sur la façon dont les couleurs se répondent, ni sur la tonalité générale du poème, donnée dans le huitième vers, non cité encore une fois, qui est celle de la mélancolie automnale. Lorsque, ivre, le poète s'appuie à la rambarde ou au parapet dominant l'étang, regrettant qu'il n'y ait personne à qui communiquer ses sentiments au moment de poursuivre son long voyage. Encore une fois, la présence ou l'absence d'un interlocuteur. En revanche, ce qui devrait nous intéresser ici, dans le non-dit de ce poème, si nous pouvons appeler ainsi ce qui n'est eu que dans la citation du Loeishu, puisque c'est explicite par ailleurs, ce sont les vers 5 et 6 qui entrent curieusement en résonance avec la partie non-dite de la citation précédente de Pōjūyi. La déesse va bientôt venir, Shinnyo. Jinnyo en lecture gong complète. Shinnyo, la déesse va bientôt venir, les nuages se dissiperont aisément. L'immortel Senga s'en va à présent. La lune ne saurait rester. Comme le poète évoque son arrêt à un gîte d'étape, Eki, il ne sera pas difficile d'imaginer ce que désignent exactement les deux sortes de belles ainsi évoquées. Mais en transposant les servantes d'auberge en déesse de l'aube et déesse de la lune, ou tout au moins en feignant de les prendre au sens littéral, nous nous retrouvons aussitôt dans l'imagerie de l'étang céleste Tenchi qui précédait. Étang, lotus et femme. Nous voyons alors les déesses chinoises se transformer en Tennyo ou Apsala, n'est-ce pas, les Devakanya bouddhiques, et encore une fois, voici une illustration un peu facétieuse, qui ces êtres qui agrémentent les paradis bouddhiques ou les apparitions de Bouddha et de Bodhisattva. Et je donne à droite cette illustration de fort mauvais goût, mais que l'on trouve tout simplement en tapant sur Google Images les deux mots de étang du lotus et Tennyo, n'est-ce pas ? Vous voyez bien que c'est encore présent dans l'imaginaire extrême oriental. Remarquons une dernière fois le décalage entre la saison explicite du poème, l'automne, et celle dans laquelle le compilateur l'insère, sans état d'âme apparent ni sans aucune excuse prétextée. Nous voyons ainsi se constituer sous nos yeux, pour ainsi dire, ou au-delà de nos yeux, mais prête à se révéler et relier logiquement par la mention explicite des lotus, toute une allégorie bouddhique dont nous commençons à voir où elle va nous mener. Voici les Senga aussi, donc le Senga qui est une déesse de la lune dans la tradition chinoise, enfin c'est une illustration moderne, et la voici aussi comme sorte de mascotte d'un resort, n'est-ce pas, d'un lieu touristique japonais, Senga-san. Alors, il faut confesser que notre élan est quelque peu compromis par le distique suivant, attribué à Kino Arimasa, Zaisho, qui était certainement actif autour de 950, connu comme poète de style chinois, mais dont nous ne possédons plus le recueil personnel, et dont il ne reste que quelques pièces dans de grandes anthologies de kanji, de poèmes sino-japonais. Nous ne pouvons donc donner davantage de contexte et de profondeur au distique qui est ici proposé, et c'est malheureux parce qu'il y en avait certainement un qui nous échappe donc à cause de l'absence de documents. Je vous en donne encore la lecture. Au bambou de la rive, une branche s'est baissée. Ce doit être qu'un oiseau s'y est posé. Du lotus en eau profonde, Futshi, si, n'est-ce pas, l'abîme, mais c'est, bon, il faut le, c'est un peu exagéré peut-être. Donc, du lotus en eau profonde, la feuille a remué. C'est qu'un poisson idolâtre. Nous avons donc une image très simple, dont il serait par trop intrusif d'essayer de tirer des sous-entendus. Ce serait plutôt desservir notre enquête, à moins que l'on ne veuille détecter un sens bouddhique à l'emploi de shuku, que nous voyons encore ici, n'est-ce pas, qui peut être d'ailleurs le prétexte, c'est le dernier caractère du premier vers, dont nous avons vu les implications et qui était bien plus fortement étayé tout à l'heure dans la première série de l'été. Nous ne voyons guère ce que peut faire venir ici le karma de shuku, encore qu'il ne faille rien exclure en raison de l'absence de contexte. Les commentateurs sont malheureusement tout aussi muets, à moins de nous référer à un commentaire tardif, datable de 1405, que nous avons ici, le Wakanroishu Wadansho, qui voudrait que le premier vers, et le premier vers, donc, qui rappelle un peu Cyrano de Bergerac, n'est-ce pas ? Faut-il que vous aimiez les oiseaux pour que paternellement vous vous préoccupiez de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Ça serait la comparaison qui s'impose, puisque le premier vers illustrerait, selon le commentateur du tout début du XVe siècle, la prévenance, homoyadi, et donc la compassion bouddhique, jihi. Tandis que le second vers illustrerait l'esprit d'observation et de déduction, la feuille de lotus bouge, c'est donc qu'il y a un poisson qui s'y ébat au-dessous. Et donc, ça serait la déduction, le suisatsu, et donc la sapience. Mais cela est certes bouddhique et signifie au moins que notre démarche n'est pas incongrue, puisque certains l'ont suivi avant nous, bien que dans un sens tout différent. Mais reconnaissons que cela nous mène un peu loin, ou pas loin, selon le point de vue. Nous devons en conséquence passer au poème suivant, dont nous allons voir qu'il va nous aider dans notre progression momentanément interrompue, en nous remettant sur des rails plus porteurs. Il s'agit ici encore d'un distique sino-japonais que nous allons tout d'abord lire avant de l'expliquer, ce qui nous permettra de voir comment le progresse d'un sens de surface, somme toute assez neutre, à un soubassement bouddhique. Encore une fois, donc vous avez tout ce qu'il vous faut sur l'illustration. Je vous donne simplement la traduction. Pour quelle raison irais-je la chercher dans un recoin ? Kyoku, le dernier caractère du premier vers, kyoku, et le kuma, ici, est glosé par certains comme une région des hauteurs dangereuses, n'est-ce pas, dans une montagne. Alors, pour quelle raison irais-je la chercher dans un recoin des monts de Wu, au sud de la Chine, puisque c'est la fleur au pied du trône de mon seigneur ? Zakanohana. Le titre est donné comme étant le lotus aux 1000 pétales, Senyo no Renge. Et il est précisé que ces vers, censés être composés par l'empereur Daigo, c'est ce qui est donné dans le titre, dans le titre complet, n'est-ce pas, furent écrits sur un paravent représentant le lotus aux 1000 pétales lors de l'anniversaire du père de l'empereur Daigo, l'empereur retiré Uda, pour ses 50 ans d'ailleurs, précisent certains commentaires, ce qui daterait ce poème de 917 ou à très peu près. Et l'empereur retiré Uda est ici désigné comme Teiji no In, n'est-ce pas, les trois premiers caractères du titre. Si nous prenons par exemple la notice assez fournie des gloses de Eisai, qui est le commentaire le plus complet des poèmes chinois, alors qu'il est muet sur les poèmes japonais, l'allusion est expliquée par un épisode tiré d'un texte chinois très important pour la propagation des doctrines du Sutra du Lotus en Chine et au Japon, donc en chinois le Hongzhan Fa Hua Chuan, et plus connu au Japon sous le nom de Hokedenki, ou Hokeden, ou Hokedenki, donc notice ou petit mémoire sur la large proclamation, diffusion et louange du Sutra du Lotus, qui est datable du tout début du 8e siècle. On y raconte qu'un maître de maison indien, Choja, n'est-ce pas, du nom de Rusui Choja, qui n'est pas donné ici, donc c'est le Rusui, c'est Nagaru Rumizu, de Suichou Zhen, qui était le grand ministre d'Aijin, d'un roi de l'Inde, Tenjiku, avait commis une offense à l'égard de ce souverain, et que pour expier cette offense, le roi lui ordonna de lui rapporter une fleur de lotus bleu, Shōrenge, Aoki Renge, n'est-ce pas ? Là aussi, je vous invite à regarder sur Google Images ce que peut être l'image d'un Shōrenge dans le monde sino-japonais, à différencier du Ranrenge, n'est-ce pas, qui est le lotus bleu de Tintin. Ici, la couleur peut être très variable, mais je le traduis par lotus bleu, faute de mieux. Donc, le ministre avait appris qu'une telle fleur, donc un lotus bleu aux 1000 pétales, Senyo no Shōrenge, se trouvait dans les montagnes de l'Orient. De l'Orient pour l'Inde, donc, c'est-à-dire la Chine, au mont de Wu, avec le santal rouge, Shakusendan, quelque chose, un bois très précieux. Mais qu'ils étaient gardés par un dragon, Dairyu, qui ne le laisserait certainement pas approcher. Il était donc fort embarrassé. Mais en arrivant au pays de Wu, il trouva un arhat, un arakan, qui lui donna une précieuse information. S'il prononçait la formule qui est donnée en avant-dernière ici, la formule « Hommage au Bouddha, Namu Butsu », il n'est pas précisé quel Bouddha, simplement le Bouddha, probablement Shakyamuni, puisque nous sommes dans le Hokkaiden. Donc le dieu dragon, Dyujin, qui garde ce trésor, donc, l'épargnerait certainement, comprenant qu'il était un fils de Bouddha, Bushi. Le conseil s'avéra fort utile et Rusui Choja put rapporter la fleur à son roi, qui lui pardonna. Le poème peut donc se comprendre littéralement comme un mot d'esprit, le poème japonais, c'est pas que nous avions tout à l'heure. Point n'est besoin d'aller dans la Chine lointaine, chercher ce lotus bleu aux 1000 pétales, puisqu'il est ici, sur ce paravent, dans le palais impérial du père du poète. Mais si l'on comprend le poème à la lumière de l'histoire qui en est la toile de fond, il est lié à l'invocation du Bouddha, bien qu'il ne donc le Shōmyō, n'est-ce pas, bien qu'il ne s'agisse pas expressément d'Amida, mais il se rattache aussi sans peine à l'image de l'étang des lotus vu précédemment d'une part, tandis que d'autre part, ainsi que le rappelle Kawaguchi Hisao, la figure du lotus aux 1000 pétales se trouve dans le Sutra du Lotus, au chapitre Daibadatta-hon, n'est-ce pas, le don des dieux, où se trouvent aussi un dragon et sa fille, comme chacun sait. Je vous donne simplement la lecture de la traduction de ce texte, de cette citation du chapitre Don des dieux. À ce moment, Manjushri, assis sur une fleur de lotus à 1000 pétales, aussi grande que la roue d'un char, escorté d'un être d'éveil également assis sur une fleur de lotus de matière précieuse, surgit spontanément du palais du dragon Sagara dans l'océan et demeura dans l'espace. Et ensuite, la fin étant, il se dirige vers le monde des aigles, n'est-ce pas, et descend de son lotus volant pour arriver auprès des deux Bouddhas, donc Prabhutaratna, Tahonyorai et Shakyamuni, et pour les saluer de la tête, il les salue de la tête touchant les pieds des deux vénérables. Nous voyons donc ce poète un peu fade, malgré son illustre auteur, se transformer en double allusion à l'aminisme, avec en filigrane le rappel de l'évocation au nom de Bouddha dans l'histoire qui fonde le poème, et au Sutra du Lotus. Il se situe alors de façon impeccable dans la série, rappelant ce qui précède et annonçant ce qui suit. Car le poème suivant, le dernier de la suite chinoise et sino-japonaise, est encore un distique. Mais il est cette fois tout à fait explicite. C'est en même temps, si l'on peut se permettre une telle généralisation, une citation qui donne une excellente idée de la façon dont opérait l'imagination des poètes bouddhiques japonais, qui évoluait littéralement dans un monde de correspondance où chaque manifestation de la nature, les monji, n'est-ce pas, les signes écrits, les signes dont parlait Kukai dans le texte que nous avons vu l'année dernière, où chaque manifestation de la nature constituait un lien avec la lettre des Écritures, et tout particulièrement avec le Sutra du Lotus. Son auteur est Minamoto no Tamenori. qui est, dont les, vous avez les dates ici, n'est-ce pas, mort en 1011, prince impérial et disciple du grand lettré Minamoto no Shitago, mort en 983, poète et érudit, et auteur du grand dictionnaire, premier grand dictionnaire à la fois des caractères chinois et du japonais par ses gloses, qui est le Wamyo Rujisho. Tamenori est encore connu comme l'auteur du Samboe Kotoba, ou explication illustrée sur les trois joyaux, recueil de notices édifiantes sur le Bouddha, les grands religieux, le rituel bouddhique. Le quatrain que nous avons ici, le distique que nous avons ici, est la seconde partie d'un quatrain qui est inclus dans la rubrique choses bouddhiques, Butsuji, d'une anthologie de poèmes sino-japonais qui s'appelle le Honshō Reiso. Excusez-moi, je ne l'ai pas noté, mais c'est donc le Honshō Reiso, n'est-ce pas, qui est un recueil de composé vers 1010 d'anthologie d'anthologie des poèmes de poètes sino-japonais. Ce poème est intitulé Le lotus dans l'étang de l'Ishiyamadera. Ishiyamadera, donc, qui est entre le mont Hiei et le lac Biwa, et qui est un temple du Tendai aussi, et où évidemment Murasaki Shikibu aurait composé le Genji Monogatari. Donc, ce lotus dans l'étang de l'Ishiyama est un exemple relativement rare où le poète s'adresse directement à un être inanimé, en utilisant de plus le pronom personnel de la seconde personne, ce qui se trouve peu souvent, en tout cas. Il nous faut d'abord lire le premier distique pour comprendre le second. Je vous donne très rapidement donc, le premier distique. Au temple, Terani, n'est-ce pas, on a creusé, Ugatsu, un petit étang. Un lotus, ou plutôt des lotus, viennent d'y surgir. Selon que l'on lise le dernier caractère « hei » ou « bio », « hotobashiru » qui voudrait dire « surgir » ou bien « habikoru » qui veut dire « déborder, foisonner ». Donc, ce serait plutôt ce sens qui est le plus probable et qui est donné dans un vieux commentaire, c'est-à-dire donc « des lotus, ils poussent à foison ». Et le dernier caractère, le dernier vers, n'est-ce pas ?« Ningen to kusato subekaraku wa don bekarazu ». Point des besoins à la plante et à l'homme de se parler. Et vient ensuite le distique cité ici. Dans le sutra, tu es le titre. Dans le Bouddha, tu es ses yeux. C'est ainsi que je sais que dans ta fleur sont plantées des racines de bien. La première partie du premier vers se comprend sans peine. Le nom du lotus, Namu Myoho Rengekyo, donc Myoho Rengekyo, se retrouve dans le titre Daimoku, du sutra du même nom. La seconde partie, si elle est moins compréhensible d'emblée, est expliquée par les commentateurs anciens, repris et précisé par les modernes. Il y a cependant deux références distinctes, soit un petit texte intitulé « Les 12 hommages à Amida »,« Amida Junirai », qui est attribué à Ryuju Bosatsu, c'est-à-dire à Nagarjuna, n'est-ce pas, ce qui n'est certainement pas le cas. Et voici ce que l'on trouve dans le Junirai. Ces deux yeux sont aussi purs que la fleur de lotus. Que la fleur de lotus bleu, n'est-ce pas, il est bien précisé. Donc, Kiyokute Shorenge no Gotoshi. Soit la citation, je crois que je l'ai omise ici, enfin, une citation qui est assez voisine, n'est-ce pas, mais qui est tirée d'un autre texte, puisque c'est le Yuimakyo, le sutra de Vimalakirti, et tout au début du Vimalakyo, le premier chapitre, le Bukkokuhon, qui est donc le chapitre sur le Bouddha Kshetra, le domaine de Bouddha, le champ de Bouddha, qui n'est pas, bien sûr, forcément le paradis d'Amida, mais de n'importe quel autre Bouddha, vous avez une autre citation assez proche, Mekiyoku, Shuko Nishite Shoren no Gotoshi, c'est-à-dire qu'il a les yeux, ses yeux sont aussi purs, longs et larges que le lotus bleu. Si l'on nous demandait notre avis, nous estimerions qu'il est plus vraisemblable, après ce que nous avons vu de la double référence à la fois lotusienne et amidaïste, qui rebondit de citation en citation, que ce soit le premier texte qui est ici la source, ce qui ne fait qu'accentuer le parallèle Amida-Lotus. Le distique finit sur un jeu de mots déjà bien usé au temps de la composition du poème. Enfin, parce que c'est les racines de bien, là, il faut la racine du lotus et la... et la racine du lotus et le sens bouddhique. C'est si usé même qu'on peut le faire remonter au moins au Guanghong Mingzi, n'est-ce pas, le Kogu Myoju, qui est un recueil de différents textes bouddhiques du début de la dynastie des Tang. Le jeu de mots sur la racine des plantes et les racines au sens bouddhique, racines au sens bouddhique qui peuvent se comprendre soit comme ici au sens de racine de bien, ou aussi dans le sens de faculté sensorielle. Un jeu de mots qui continue bien sûr dans les poèmes bouddhiques japonais. Le fait que le poète s'adresse directement aux fleurs de lotus, en feignant de prendre le terme non plus au sens figuré, mais au sens littéral, faisant allusion au renkon, n'est-ce pas, aux racines de lotus qui sont un excellent allumement en plus, donc ne peut donner qu'un tour humoristique à ces vers. Vous devez vraiment avoir de bonnes racines pour ainsi croître au point de vous retrouver dans le titre du sutra et dans les comparaisons du Bouddha. Tout en illustrant parfaitement ce que nous avons déjà vu maintes et maintes fois, l'humour n'empêche pas que ces vers illustrent la double dimension herméneutique de tout poème, japonais comme chinois, celle de la vérité phénoménale et celle de la vérité réelle. La fleur de lotus concrète est le lotus de la loi sublime, en même temps que le visage de Bouddha. Le poème japonais qui vient clore cette série de 7 citations sur le lotus constitue, la plante, constitue encore une fois une sorte de point d'orgue sur lequel s'arrête et se prolonge la tonalité vers laquelle tendait le compilateur, en élaborant degré par degré sa progression vers son but ultime. Il est d'un auteur célèbre, le recteur monacal Henjo, 816-890, grand poète et hiérarque du Tendai, l'un des 36 immortels encore de la poésie, et lui aussi auteur inclus dans le Hyakunin Ishu. Le poème qui est repris ici est très célèbre grâce au fait qu'il figure dans le Kokinshu. C'en est le numéro 165, et c'est l'un des derniers poèmes de la rubrique « Été » du Kokinshu, rubrique qui compte 168 poèmes. Donc, dans le Kokinshu, il est présenté sous la notice que vous avez ici, « Hachisu no tsuyu o mite yomeru », composé à la vue, en regardant, en contemplant, la rosée sur les lotus, le ou les lotus. Voici donc le texte tel que nous le donne le Wakan no Eshu, et j'y inclus, je donne donc en même temps les lectures du Kokinshu qui sont un peu différentes. Alors selon les éditions du Wakan no Eshu, vous avez des gens qui normalisent avec le Kokinshu ou bien qui gardent, qui gardent le vocabulaire du Wakan no Eshu. Donc ce qui est entre parenthèses est la lecture du Kokinshu. Donc Hachisuba no Nigori ni Somanu ou bien Shimanu, Kokoromote, Nado, Nadoka ou bien Nanika, Nanikawa, Nadokawa, Tsuyuo, Tamato, Azamuk. Cela ne change absolument pas le sens en langue française. Simplement, les références les interactions textuelles peuvent jouer d'une façon différente. Les pétales du lotus, au cœur non entaché par la souillure, comment peut-il nous tromper ? Alors, le lotus, c'est pas ou bien les pétales, mais là, c'est le lotus. Donc, les pétales du lotus, au cœur non entaché par la souillure, comment peut-il nous tromper en faisant passer pour perle la rosée ? Les meilleures éditions modernes du Loeshu, donc, préfèrent la lecture, la leçon Nsomanu à Shiminu, ce qui en accentue la résonance bouddhique, Shimu étant plus neutre que Somu, qui s'écrivant avec le caractère zen, n'est-ce pas, que vous avez par exemple dans la dernière ligne que vous trouvez ici dans la dernière en bas de l'écran, le second caractère de la dernière citation, de la dernière ligne. Donc c'est écrit zen ou sen, il a un usage fréquent dans la terminologie bouddhique. Revenons aussi un instant sur le sens du mot cœur dans ce contexte. Et là, je crois qu'il faut vraiment y revenir parce que les commentateurs modernes ne semblent pas le mettre tout à fait en relief. N'oubliez pas que le mot japonais kokoro renferme potentiellement tous les sens du caractère chinois shin, dont il est la lecture, dont la lecture explicative. Le grand dictionnaire chinois de l'Institut Ricci nous rappelle que ce caractère signifie aussi le cœur d'une fleur, pistil et étamine. Sens renforcé, bien sûr, chez l'éminent moine Tendai Ke Henjo, par le passage de la somme de contemplation sur laquelle nous sommes déjà attardés, je pense, le Makashikan, n'est-ce pas, ce texte très important d'un moine chinois du VIe siècle, le Mohojiguan en chinois, Makashikan en japonais, qui est vraiment comme la somme théologique au Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est le livre de formation dogmatique, doctrinale de tous les religieux Tendai. Le Tendai étant le cadre intellectuel dans lequel résonnent non seulement les moines, mais aussi les lettrés de l'époque. Donc, dans ce passage du début du Makashikan, de la somme de contemplation, sont résumées les diverses sens de Shin, et parmi lesquels on trouve explicitement So moku no kokoro nari, n'est-ce pas ? C'est-à-dire kusagi no kokoro nari, il s'agit du cœur des végétaux. C'est donc bien évidemment en ce premier sens littéral qu'il convient de prendre tout d'abord les trois premiers vers. C'est le cœur physique de la fleur de lotus qui n'est pas taché par la vase de l'étang. Le sens figuré est tout aussi évident, et les commentateurs anciens repris par les modernes rapprochent les premiers vers d'un passage du Sutra du Lotus qui se trouve au chapitre issu de la terre, Juji Yushitsuhon, c'est pas du Sutra du Lotus, surgit de la terre, que je vous donne en bas, ici, le sujet étant les bodhisattvas, les fils des éveillés, encore une fois, Bushi, que nous avons vu tout à l'heure. Ils ne se souillent pas des entités mondaines, de même que la fleur de lotus dans l'eau, voici qu'ils surgissent de terre. Ils surgissent de terre sans être souillés par la terre et ce qu'il y a sur terre, n'est-ce pas ? Donc, exactement comme les lotus. Dans le sutra, il s'agit des bodhisattvas qui viennent attester la prédication du Bouddha. Ici, c'est le lotus, la fleur de lotus lui-même. Mais ainsi que nous avons été préparés à le comprendre par la progression des citations, c'est bel et bien du sutra du lotus qu'il est question. Ce sutra étant la révélation de la vérité ultime, ce qui est placé sous son signe ne saurait être fallacieux. Mais on comprend bien qu'il s'agit ici d'une plaisanterie, de l'humour de la part d'un docte moine. Nous savons qu'il n'en manquait pas, malgré les apparences, et nous en avons déjà vu plusieurs exemples. Mais l'humour est souvent à double sens. Il est ici d'abord évident que ce poème répond à un vers de Po Juyi qui se trouve dans une suite de cinq pièces intitulée « Propos décousus ». Hōgen, ho de hanasu, n'est-ce pas, hotoku, horu, donc les propos décousus, et dont un des distiques de Po Juyi est le suivant. Donc, vous avez Soe, on peut dire Kagayaki ou Hikari Aredo, Tsui ni Hini Arazu. Et ensuite, vous avez le vers qui nous intéresse, Karo Madoka Narito Yedomo, Anikore Tamanaranya. Même si les lucioles, alors oui, le début, n'est-ce pas, oui, même si les lucioles brillent sur l'herbe, elles n'ont rien du feu. Elles n'ont aucun rapport avec le feu. Bien que la rosée soit en boule sur les lotus, comment serait-ce des perles ? Sur le mode plaisant, donc, Henjo renforce l'affirmation de la vérité du lotus. C'est au nom de cette vérité que la confusion des sens, dont nous avons vu très souvent que c'est l'un des thèmes principaux de la poésie à résonance bouddhique, n'est-ce pas ? On se trompe parce que notre esprit n'est pas encore éveillé, nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Donc c'est au nom de cette vérité du lotus que la confusion des sens devient plaisamment scandaleuse et appelle donc à être rectifiée. Henjo réfute, sur le mode humoristique, l'interprétation pessimiste de Po Juyi. On voit donc que ce poème prolonge la note humoristique des vers de Tamenori qui le précédaient. Mais ils ont aussi une postérité qui renverse, si je puis ajouter ce mot, ce hirugaesu, n'est-ce pas, que nous avons déjà vu, sa portée plaisante, ou plutôt qui la prolonge jusqu'à la découverte de la vérité que Henjo avait certainement à l'esprit en tant que moine du Tendai. En effet, à la lumière du lotus, la rosée éphémère peut révéler sa vraie nature de perle. je n'insisterai pas ici, je n'ai pas le temps, plus le temps, d'insister sur la symbolique de la perle dans le sutra du lotus, n'est-ce pas? C'est un autre grand religieux du Tendai, un érudit, Jien, ça ne vous étonnera pas, n'est-ce pas, qui assurera ce retournement. Nous avons plusieurs poèmes de lui qui reprennent celui de Henjo, qui reprennent sans doute possible celui de Henjo. On en trouvera un dans la centurie du lotus, dont l'explication complète nous mènerait trop loin. C'est celui que j'ai donné en second, mais nous n'aurons pas le temps d'y toucher, n'est-ce pas? Donc, Natsu no ike ni motoyoritane no arebakoso nigori nishimanu hanamo sakurame. Mais celui que nous voyons est un autre que je vous donne en premier. Peut-être faut-il le lire, n'est-ce pas? Tsuyu no miyo tamatomo nasan hachisuba no nigori nishimanu waga kokoro yori. Alors, vous voyez, le sens est assez clair, n'est-ce pas? Ce corps de rosée éphémère, perle se fera. Nasan, c'est ici une prédiction. À partir de mon cœur, Kokoro Yori, aussi immaculé que les pétales du lotus. Ce corps de rosée éphémère, perle se fera, à partir de mon cœur, aussi immaculé que les pétales du lotus. Cœur, je donne la traduction minimale de cœur, mais c'est évidemment la pensée, l'esprit, ce qui est derrière, c'est le terme bouddhique de Shin en chinois, Chitta en japonais, n'est-ce pas? Donc les deux poèmes ont presque tout leur vocabulaire en commun. Tsuyu, Tama, Kokoro, Nigori Nishimanu, Hachisuba. C'est en même temps un rappel de la pensée noétique de Jien. Vous savez que Jien, je l'ai déjà souvent montré par ailleurs, est imprégné de la doctrine du Yushikidon, n'est-ce pas, du Jo Yushikidon, c'est-à-dire du rien que conscience. Et ce poème en donne encore une bonne illustration. Donc, c'est pour la pensée éveillée, et la pensée éveillée qui contient, vous vous souvenez de ce que nous avons vu chez Kukai l'an dernier, la pensée éveillée de l'homme, de l'être humain, de tout être vivant, est un retour à la pensée primordiale du Bouddha en corps de loi. Donc, c'est rien d'étonnant dans ce... Donc, pour la pensée éveillée grâce à l'enseignement du lotus, les phénomènes apparaissent sous leur aspect réel, Jisso. Cette série de poèmes d'été sur le lotus amène donc fort habilement une conclusion toute bouddhique dans son paradoxe humoristique. Nous avons pu y voir un excellent exemple de déploiement de toutes les formes de lecture et comment le contexte, non donné, mais censé être connu, constitue une sorte de subtexte qui guide la compréhension du lecteur. Il y a aussi quelques appels préliminaires, comme le Sekibaku de Bojuyi, qui, lu en Gohon, Jacques Kumaku, évoque la méditation et le nirvana. Ce procédé est bien sûr essentiel dans la poésie japonaise classique, mais nous voyons ici combien il se prête avant tout au développement religieux et à quel point c'est la résonance bouddhique qui constitue le lien et le liant de ce processus herméneutique. Je vous remercie de votre attention.